Je vous invite à trouver encore le psaume 73. La semaine passée, nous avons regardé la première partie de ce psaume jusqu'au verset 20 et nous allons essayer de résumer un peu et puis voir une partie suivante. Mais d'abord, nous allons faire la lecture de ce psaume qui est tellement intéressant et Dieu est tellement bon envers nous pour nous faire apprendre à travers quelqu'un, et quelqu'un de réel et de son expérience. Il peut mettre par écrit et raconter qu'est-ce qu'il a traversé dans une chute presque définitive, mais d'où le Seigneur l'a relevé. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Mais quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. C'est-à-dire, j'ai failli abandonner la confiance que Dieu est bon. Car je jalousais les insensés. En voyant la prospérité des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet, ils n'ont aucune part à la peine des hommes, ils ne sont pas frappés avec les humains, aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, nous pouvons penser à plusieurs personnes dans l'histoire et même aujourd'hui qui répondent à cette description. Leur figure est débordante de graisse. L'obésité des riches, des grands. La violence, pardon, les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. La prochaine partie est peut-être, je trouve la traduction un peu vague dans ma version, mais vous allez saisir quand même l'essentiel. Voilà pourquoi son peuple en arrive là, on avale l'eau abondamment, et l'on dit, comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? C'est peut-être les méchants qui parlent. Est-ce que Dieu connaît? Est-ce qu'il peut même pas nous voir? C'est pas grave. Ou c'est peut-être le croyant dans son incrédulité qui dit, est-ce que Dieu ne voit pas? Est-ce qu'il ne connaît pas l'état du monde avec ces méchants qui sont tellement contents? Mais ça ne change pas la direction et le message du psaume. Donc il dit, ainsi sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que moi j'ai vécu une vie devant Dieu, et que je lavais mes mains dans l'innocence. Donc il parle de son cœur et de ses actes. Mes mains, c'est symbolique de mes actes. Tout le jour, je suis frappé. Il parle du châtiment de Dieu envers lui pour arrondir les angles dans sa vie, pour le changer, ce que Dieu permet de mauvais dans sa vie pour le changer. Donc, c'est que tout le jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirais la race de tes enfants. Il y a juste un petit quelque chose qui le retient de tomber. Il dit, si je m'exprime, si je dis tout haut ce que je suis en train de penser, je vais trahir le peuple de Dieu. Donc, parfois, Dieu nous empêche juste par un petit quelque chose. C'est pas la solution, mais c'est le frein qui nous empêche d'aller complètement à l'incrédulité. Il dit, j'ai donc réfléchi pour comprendre cela, pour comprendre pourquoi les méchants, pourquoi le mal dans ma vie, pourquoi est-ce que moi j'ai cette vie et eux, cela. Et il dit, ce fut pénible à mes yeux. C'est-à-dire mes efforts de résoudre la situation par mes efforts de comprendre n'a fait que augmenter ma douleur. Ce fut pénible. C'est pas la solution d'essayer de comprendre avec ma petite tête comment Dieu agit dans le monde, le mystère du mal, etc. Donc il dit, ce fut pénible à mes yeux jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, jusqu'à ce que je prenne la place de l'adorateur, j'arrête de regarder, de penser aux méchants, j'arrête d'utiliser mes petites pensées pour comprendre, et je prenne la place de l'adorateur et je pense à Dieu, à qui il est, à ce qu'il a promis, à ce qu'il fait, à ce qu'il dit. Et il dit, là, quand il a pris cette place, et il est allé dans la présence de Dieu, il a dit, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. Il n'avait pas une perspective éternelle avant, il voyait juste le maintenant. Les hommes méchants qui vont tellement bien. Mais Dieu lui ouvre les yeux sur son éternité, sur le sort final des méchants, et ça change tout. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Leur richesse n'est pas un refuge, un endroit formidable, c'est plutôt un endroit avec beaucoup de tentations. Être riche, tellement riche que tu n'as pas besoin de Dieu, c'est glissant ça. Tu les précipites dans la tourmente, parle du jugement dernier, entre autres. Comment en un instant les voilà en pleine désolation, ils sont au bout, achevés par l'épouvante. Parfois ça arrive dans cette vie déjà, mais certainement après cette vie. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Donc maintenant il voit, il comprend que non, Dieu est un Dieu qui va juger les méchants. Et il dit ceci, maintenant il réfléchit sur tout ce temps où il ne croyait pas plus que Dieu était bon, où il pensait que Dieu ne dirige pas bien les affaires des hommes. Il dit, lorsque, donc pendant ce moment d'incrédulité, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. C'est un peu gentil. J'étais stupide et ignorant. C'est plutôt ça. J'étais stupide et ignorant. Avec toi, j'étais comme les bêtes. J'étais comme un animal sauvage envers toi, te questionnant, me rebellant contre toi. Cependant, et voilà la partie que nous allons regarder aujourd'hui, cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras donc un jour dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur terre. Ou peut-être avec toi, je ne désire rien d'autre sur la terre. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Donc nous avons compris par mes commentaires sur la lecture un peu ce que nous avons vu la dernière fois, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc nous en sommes arrivés au point où ce monsieur donc voit. Il voit donc les choses comme il faut. Et je vous ai dit que vous et moi, nous avons ce problème. Est-ce que vous n'avez jamais douté la bonté de Dieu? À cause du mal dans le monde ou le mal qui entre même dans votre expérience? Vous êtes abusé, vous êtes répudié, on vous fait de la violence. Et puis vous dites, mais pourquoi? Comment est-ce que Dieu peut permettre, si Dieu est bon, comment est-ce qu'il permet ça dans la vie? Et lorsque nous commençons sur ce chemin, nous sommes stupides et ignorants. Nous sommes comme une bête sauvage envers Dieu. Qui sommes-nous pour questionner le Dieu éternellement, inchangeablement et infiniment bon. Mais nous voyons à partir de notre petit raisonnement et nous pensons pouvoir comprendre les choses ainsi et nous nous mettons dans une angoisse terrible. Et les gens deviennent frustrés, paniqués, amers, pleins d'incrédulité. En tout cas, ils disent « j'étais percé dans mes reins ». Et si vous avez eu cette expérience, vous avez besoin, comme le psalmiste, de vous repentir, d'essayer de comprendre la vie selon vous. Vous ne pouvez pas écrire un autre évangile. L'évangile selon David. J'écris la vie, l'histoire selon mon petit raisonnement. Non, je ne peux pas. L'évangile selon Dieu. Et donc, nous voulons comprendre que lorsque Dieu nous ouvre enfin les yeux, rendez-vous compte de ceci. Rien ne change dans la vie de cet homme, le psalmiste. Rien ne change dans la situation. Les riches sont toujours là, replets, obèses, méchants, tranquilles. Mais lui, il a changé complètement. Regarde-le à la fin. Il dit ceci. Il dit au verset 23, « Je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre aurais-je au ciel que toi? J'ai besoin de rien d'autre que toi sur la terre. » C'est le même type. C'est le même type. Et vous aussi, vous pouvez entrer dans la joie et la paix sans que la situation extérieure change. Et c'est pour cela que nous voulons découvrir comment le faire. Comment le faire. Alors, nous avons vu la dernière fois, et je veux juste vous remettre dans le bain, que lorsque toi et moi, on arrive à avoir les yeux ouverts par Dieu sur notre situation, alors notre perspective change complètement. D'accord? Et on voit ce qu'on n'a pas vu. Et la première chose qui change, c'est notre perspective du mal qui est là. Et donc il dit au verset 17, « Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. Tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans le tourment. » Avec cette perspective éternelle, nous comprenons que oui, il y a ceci qui est arrivé dans ta vie, cette chose malheureuse et mauvaise et méchante, mais Dieu va régler toute l'injustice de ce monde un jour. Attendez seulement. Est-ce que vous allez mettre en cause le système judiciaire de votre pays simplement parce que on vous fait un vol? On a braqué mon magasin, on m'a volé, et donc je mets en cause le système judiciaire de la France. Non, attends. Parce que maintenant, le système judiciaire va prendre ainsi une sentence, va appliquer une peine, va remettre les choses à l'endroit. Et donc, nous devons comprendre que Dieu est un Dieu juste et il rendra justice. Ça, c'est la première chose. Une perspective transformée sur le mal qui n'est pas final, qui n'est pas définitif, qui ne remportera pas. Deuxièmement, nous voyons que le psalmiste a une perspective transformée sur lui-même. Et toi, tu l'auras aussi. Quand Dieu t'ouvre les yeux, voilà une chose qui arrive toujours. Regarde, c'est vraiment tellement intéressant. Il dit... au verset 21, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Alors, il commence à réfléchir comme sur lui-même. Comment j'ai été? Pas sur toi et ce que tu fais dans le monde que je ne comprends pas, mais moi. J'avais une sale attitude. Je te taxais de toutes sortes de choses. Je me croyais plus sage que Dieu. Je disais, si Dieu savait ce qu'il faisait, il ferait comme moi je pense qu'il doit faire. Mais c'est exactement ça que nous sommes en train de dire, n'est-ce pas? Et donc, ce qui nous arrive, c'est que nous ne nous plaçons plus dans la place de la victime. Est-ce que vous avez jamais fait ça? Le mal vous arrive et vous dites, ah, tous les jours je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là, comme le psalmiste a dit, n'est-ce pas? Oh, pauvre moi, je suis la victime. Il ne dit plus ça. Il dit exactement le contraire. Je ne suis pas la victime, je suis le criminel. Je suis le criminel. J'ai eu tout tort en tort. Quand nous sommes amers, frustrés, fâchés, paniqués dans tous les états, le problème n'est pas quelque chose, le problème principal n'est pas quelque chose qui nous est arrivé, c'est nous-mêmes. C'est notre attitude envers Dieu au milieu de cette épreuve. Et je vous assure que nous voyons dans la Bible, et j'ai vu dans la vie, des gens qui ont traversé les pires épreuves et injustices possibles. Je l'ai vu. Et qui n'ont pas été percés dans leurs reins et fâchés contre Dieu et tout le reste. Deux personnes subissent le même mal, et il y en a un qui le traverse avec Dieu, qui lui fait confiance, et l'autre qui ne raisonne que selon sa petite pensée. Et vous avez une personne amère et frustrée le reste de la vie. Et vous avez un autre qui voit Dieu tourner en bien le mal. Donc, attention à nous, n'est-ce pas? Ensuite, nous arrivons au verset où je veux camper maintenant. Juste, je ne vais même pas aller plus loin que ce verset. Donc, je relis dans le contexte. Au verset 21, « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi ou envers toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. » Dans le contexte, tu m'as saisi par la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Le cependant est la gloire de la grâce de Dieu. Le psalmiste est en train de dire, j'ai découvert à mon grand étonnement, moi vrai croyant, mais qui a presque failli, j'ai découvert en tant que croyant que Dieu est un Dieu de grâce qui ne change jamais, d'amour qui n'altère pas envers moi. J'étais stupide, j'étais infidèle, j'étais désobéissant, j'étais comme un animal sauvage avec toi, mais je t'abandonnais. Cependant, tu ne m'abandonnais pas. J'étais toujours, au moment où je péchais, au moment où je péchais contre toi, j'étais imparfait, toujours avec toi. C'est assez glorieux, et si vous pouvez saisir cela, vous allez comprendre la vie avec le Dieu de notre Sauveur et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est avant tout un Dieu de grâce. Le psalmiste, où est-ce qu'il a compris ça? Comment est-ce qu'il a compris? Mais sans doute, avant d'arriver à cette expérience, il le savait ici. Mais c'est descendu jusqu'ici par son expérience. Mais écoutez le psaume 103. L'Éternel est miséricorde, Dieu est compatissant. Ne tournez pas, parce que je vais lire rapidement. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne traitait pas cet homme selon ses péchés, son incrédulité. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. Donc cet homme pèche contre lui et Dieu ne lui traite pas selon ses péchés. Il le saisit par la main droite, il ouvre les yeux, il le conseille, lui montre ce qu'il en est vraiment, il le sort de là et il le transforme. Voilà la réponse de Dieu à sa désobéissance. C'est assez incroyable. Cela ne veut pas dire que Dieu accepte n'importe quel comportement de ta part. Ça ne veut pas dire que ce que tu fais ne compte pas. Attention, les gens confondent grâce de Dieu avec indulgence. Les deux choses sont complètement différentes. Je m'explique. Dieu aime le psalmiste au moment où il agit comme une bête sauvage, un homme stupide et désobéissant. Il l'aime autant qu'avant. Mais il n'aime pas son péché. Il n'aime pas son comportement, mais il aime la personne. Et donc, c'est comme un père qui aime son enfant, mais qui n'aime pas le comportement à un moment donné de son enfant. Donc, il peut châtier l'enfant pour le comportement, mais s'il est un bon père, il le fait par amour. On dit en français, qui aime bien, châtie bien. C'est tiré en fait de la Bible, d'Hébreux 12. Sauf que vous et moi, on a été mal châtiés parfois, dans la colère. Mais celui qui aime bien peut châtier dans l'amour. Je veux vous donner quelques exemples de cela pour que vous puissiez comprendre comment, au moment où je pêche, Dieu est autant avec moi qu'avant. Abraham ment. Il dit que sa femme, c'est sa sœur, parce qu'il craint qu'en allant dans un tel pays, les gens vont convoiter sa femme, qui est très belle, et qui vont le tuer pour avoir sa femme. Donc il dit, ça c'est ma sœur. Alors, conséquence de son péché, quelqu'un prend sa sœur, un roi, pour être sa femme. Qu'est-ce que Dieu fait à ce menteur Abraham? Il le protège, il empêche le roi de se coucher avec sa femme, et il frappe ce roi d'une plaie pour que le roi fasse tilt et dit quelque chose ne va pas. Il va à Abraham. Cette dame, c'est qui pour toi? Bah, c'est ma soeur, mais c'est ma demi-soeur, c'est aussi ma femme. Et donc il dit, ah, maintenant je comprends pourquoi la peste, la plaie est arrivée dans le foyer, parce qu'on a péché contre ton Dieu. Prends ta femme, je ne l'ai pas touchée. Donc pendant que Abraham ment, Dieu prend soin de lui, mais il ne va pas permettre qu'Abraham reste menteur. Pensez à Pierre. Seigneur, même si tous les autres t'abandonnent, au moment de ton arrestation, pas moi. Pierre, Pierre, avant que le coq ne chante trois fois, tu vas me renier trois fois. Cependant, Cependant, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu reviens, fortifie tes frères. Pendant que Pierre se prépare à renier le Seigneur est avec lui et prie pour lui et le soutient. David, qu'est-ce que tu fais avec cette femme Bathsheba? Pourquoi est-ce que tu as fait tuer son mari? David pêche gravement, très gravement. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui envoie un prophète qui le reproche et David se repent. David se repent tellement de fois publiquement qu'il écrit plus d'un psaume pour parler de sa repentance. Il se repent dans les larmes amères. Il dit au monde entier ce qu'il a fait. Il avoue. Et Dieu lui dit, je te pardonne. Et il est né à lui et à Bathsheba un fils qui s'appelle Salomon. Ce qui veut dire bien-aimé de Dieu. Dieu est avec David. Mais Dieu dit à David aussi, la violence ne va pas quitter ta famille maintenant. Ce que tu as fait en secret, tes fils vont le faire en public. L'adultère va ravager ta famille. Mais je t'accompagnerai quand je suis avec toi. Tu es mon bien-aimé. Ça, c'est le résultat de ton péché, mais je vais tourner ça en bien. Je pourrais continuer en vous parlant de Jonas qui fuit Dieu, qui se jette dans l'eau pour se suicider, et Dieu le fait avaler par un poisson et le ramène. Quand Jonas veut quitter Dieu, Dieu ne veut pas le quitter. Il est comme ça, gloire à son nom. Lorsque vous étiez encore pécheur, Christ est mort pour vous. Ça, c'est la grâce. Donc, les deux choses, nous devons l'apprendre, sont toujours présentes. Le Dieu qui est avec nous, dont la bonté ne change pas, mais aussi cette bonté signifie que avec le pardon, il existe aussi et donne la transformation. On ne peut pas rester dans le péché. Maintenant, je voudrais vous demander, est-ce que vous croyez dans le Dieu du cependant? J'étais comme une bête sauvage auprès de toi, cependant, j'étais toujours avec toi. Croyez-vous à ce Dieu? Un Dieu qui ne vous aime pas parce que vous faites ceci ou cela. Il ne vous aime pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce qu'il est éternellement. Il est amour. Il est le Dieu qui aime son peuple, qui l'aime, qui lui donne sa faveur, qui favorise, qui bénit, qui veut son bien, qui le cherche et qui ne change jamais. L'amour de Dieu, donc, n'est pas une réponse à quelque chose en toi. Si Dieu t'aime, s'il est avec toi parce que tu es avec lui, ben, il aurait quitté le psalmiste, n'est-ce pas? Mais la bonté de Dieu envers toi n'est pas une réponse à quelque chose. La bonté de Dieu est la source de toutes tes réponses bonnes à lui. Dieu est bon lui-même. N'enlevez pas de Dieu sa divinité. Parce que quand vous pensez que Dieu est seulement bon envers moi et avec moi, quand je suis bon, vous enlevez la divinité de Dieu. Parce que vous êtes en train de dire que c'est moi qui contrôle l'attribut de bonté dans le Créateur. Je peux, comme un robinet, fermer sa bonté. Si je suis mauvais, il n'est plus bon, il ne m'aime plus. Mais c'est moi qui ai changé cela. Et si je suis bon, je l'oblige à être bon envers moi. Non, Dieu est bon parce qu'il est bon éternellement. Il est bon. Et il veut que vous sachiez que cette bonté n'est pas une source de laisser aller. Il est bon pour vous sauver, pour vous changer, pour vous prendre à lui. Je pense que je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, et ça, cette phrase, cependant, j'étais toujours avec toi, il va le décliner en plusieurs facettes de la vie chrétienne. Et pour moi, cette description est une description la plus formidable de la vie du croyant, de ce que c'est qu'être croyant. Tu m'as saisi par la main droite, voilà mon passé. Tu me conseilles avec ta sagesse, voilà mon présent. Et tu me recevras ou tu me prendras dans la gloire, voilà mon futur. Et je suis enveloppé. Je ne sens pas toujours la bonté de Dieu envers moi. Ce n'est pas que je sens que je suis avec lui, qu'il est avec moi. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Attention, aujourd'hui nous vivons dans une zone mystique où la seule chose qui est vraie, c'est ce que je ressens. Et ça, c'est aussi une manière d'enlever de la divinité de Dieu et de le mettre en moi. Si ce qui est vrai, c'est seulement ce que je sens, ça alors c'est grave. Vous pensez qu'il a senti la bonté de Dieu, la présence de Dieu quand il était stupide, ignorant? Et non, c'est après qu'il a réalisé, j'étais toujours avec toi. Dieu est plus grand que ton cœur. Tu peux sentir quelque chose et tout ce que tu sens est tout simplement une fonction de ta faiblesse, de ton péché. Je vous lis juste par exemple un verset dans 1 Jean dans le Nouveau Testament où Jean dit ceci. Excusez-moi, j'allais arrêter, mais je vais arrêter. Ne vous inquiétez pas. Mais il faut que je vous dise quand même cela. Donc il dit ceci. Petits enfants, ne ment pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, écoutez bien, de quelque manière que ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et connaît tout. Ton cœur te condamne, ton cœur te dit « J'étais tellement mauvais récemment que Dieu doit me condamner, je suis un condamné. » Mon cœur me condamne, mon cœur me dit « Dieu n'est pas avec toi, mais Dieu est plus grand que ton cœur. » Ne réduis pas le Dieu éternel à la taille de ce que tu ressens. Il est plus grand que ton cœur, tu n'as aucune idée de ce qu'est ses sentiments vis-à-vis de toi. C'est lui qui doit te révéler. Et ce qu'il te révèle, c'est que je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Si Dieu n'a pas épargné son Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment est-ce qu'il ne nous donnera pas aussi avec lui toutes choses? Et le mal et les disciplines, c'est la croix. Embrasser la croix. Et elle n'est plus croix, dit Martin Luther. Embrasser comme un bien caché les épreuves et vous verrez la bénédiction que vous en retirez. Mais toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et bonté envers ceux qui gardent son alliance, c'est-à-dire envers les vrais croyants. Donc, tout ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était de vous pousser, de dire, quels que soient vos états et vos expériences, si vous êtes vraiment un chrétien, vous pouvez dire, cependant, quand vous en sortez, hein, vous n'allez pas pouvoir dire ça, à moins de vous repentir et de croire encore. Mais une fois que vous vous repentez et vous faites confiance quand vous le devez au Seigneur, vous pouvez dire, et pourtant, cependant, j'étais toujours avec toi. C'est toi qui m'as sorti de ce filet. Béni soit ton nom. Nous verrons le reste dans quelques semaines. Bien, nous allons chanter dans le recueil. C'est combien?
200.
200. 291.